Je voudrais que vous écoutiez bien parce que je pense qu'il y a plusieurs pensées différentes dans cette prédication. Il y aura comme plusieurs messages dans cette prédication et je pense que c'est voulu de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas tous les mêmes besoins et certains d'entre vous avaient besoin d'une parole précise. Matthieu chapitre 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Si vous avez bien écouté le chant ce matin, il nous rappelait que Dieu est riche en bonté et que sa colère tarde. « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » C'est comme nous si nous disions, « Oui, nous sommes évangéliques. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il parle bien sûr du Seigneur Jésus, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3 aussi, ce même texte revient et nous allons le prendre à partir du verset 9 où nous voyons la réaction de certaines personnes qui étaient là. Regardez bien, c'est le même texte, il y a des ajouts, il y a des retraits. Luc 3, on va lire à partir du verset 9, car il y a des questions qui sont posées, et je pense que c'est certainement le cas pour nous. Nous nous posons certaines questions par rapport à la volonté de Dieu. Luc chapitre 3, verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, vous voyez, ça c'est pas dans Matthieu, disant, « Que devons donc nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent, « Maître, que devons nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Regardez bien, verset 14, « Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Regardez bien, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. C'est pour cela que je vous ai dit que ma prédication risque d'être émaillée de plusieurs exhortations. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas tous dans le même besoin. J'en suis persuadé, vous n'avez pas tous la même vie spirituelle. Certains sont avancés et ont une véritable communion avec Dieu. Vous avez besoin d'encouragement certainement. Certains, vous n'avez peut-être pas du tout de communion avec Dieu et vous avez besoin de certaines exhortations, comme quand Philippe a posé la question à ce ministre d'Éthiopie, ministre des Finances. Il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? C'est une question que Dieu pourrait poser à plusieurs. Est-ce que tu t'appliques à comprendre ce que tu lis? Certains répondraient, mais moi je n'y comprends rien. Mais ce n'est pas ça qu'il faut répondre. Ce qu'il faut répondre, Seigneur, aide-moi, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur, aide-moi, illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne. C'est vrai que Jésus, par exemple, a dit à Pierre, à un moment donné, par rapport à une situation, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Et nous voyons dans la parole, je pourrais le faire par cœur presque, nous voyons ce sujet qui est abordé plusieurs fois. Mais il n'empêche que Dieu sait l'exhortation dont tu as besoin. Toi, ce matin, qui es là, devant Dieu, dans la maison du Seigneur, toi qui pourrais dire, oui, mais moi j'ai besoin, peut-être que vous pensez que vous avez besoin de consolation. C'est possible. Mais peut-être que Dieu voit que avant la consolation, vous avez peut-être besoin d'être repris. Est-ce que ça peut arriver, ça? Mais oui. D'autres exhortations, avoir la parole à propos. C'est pour ça que je vous demande régulièrement, mais priez pour les pasteurs, priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour les meneurs de chant, priez pour ceux qui représentent un chant. Est-ce que c'était bien d'avoir des chants comme ceux qu'on a eus ce matin? Des chants qui nous interpellent, des gens qui nous encouragent à nous plonger dans la présence de Dieu. À quelle belle image de se noyer dans la présence de Dieu. Peut-être quelqu'un a besoin de guérison. Mais peut-être qu'avant la guérison, il y a peut-être besoin d'autre chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire? Dans ce temps compliqué, dans ces temps difficiles, dans ces temps archi-difficiles. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit peut vouloir me dire? Mes frères et sœurs, souvent on est là avec nos petits trucs, je ne dis pas, peut-être c'est, pardon, on est là peut-être juste avec nos prières superficielles, Seigneur bénis-moi, bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Bon, je sais que c'est des prières que vous avez le droit de faire, vous avez le droit de les faire. Mais je pense qu'il y a plus important que des bénédictions, de toute façon, que Dieu veut nous donner. Par exemple, venez avec moi dans l'Apocalypse. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura plusieurs pensées. Sincèrement, je le sais. Certains, vous avez besoin de repos. D'autres, vous avez besoin d'être secoués. Qu'est-ce que vous préférez ? Eh bien, ceux qui ont besoin de repos, vous devez dire, moi j'ai besoin de repos. Eh bien, si vous avez besoin d'être secoué, vous devez dire, Seigneur, ben, secoue-moi. Donne à M. Dugo de la douceur, s'il te plaît. Est-ce que Moïse, est-ce que Jean-Baptiste avait de la douceur? Alors tiens, c'est un sujet, ça. Est-ce que Jean-Baptiste aimait les gens? Je vous rappelle qu'il a été taxé par Jésus lui-même comme étant le plus grand homme qui existait. Et que dans les cieux, le plus petit sera plus grand que lui. Est-ce que Jean-Baptiste aimait les gens? Avait sa manière abrupte de présenter les choses parfois. Race de vipère. J'aurais aimé voir la bouille des frères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors c'est vrai que l'intonation que l'on utilise peut influencer sur les émotions de Jean-Baptiste. Mais vous le savez, puisque c'est une parole qui vient de Dieu, c'était une parole pour les aider à ne pas prendre le baptême, pour prendre le baptême, parce que tout le monde se faisait baptiser, alors youpi, vive le baptême, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Il doit y avoir des fruits. Et Dieu sait ce qu'il a à nous dire pour que nous portions du fruit. D'ailleurs, il ajoute, produisez donc du fruit. Et humblement, honnêtement, puisque la Bible dit, c'est Jésus qui le dit, que celui qui écoute la parole avec un cœur, comment il le dit, avec un cœur honnête et bon. Et qui retient. Donc il y a trois choses qui vont déterminer le fruit, c'est avoir un cœur bon, c'est-à-dire un cœur vrai. Vous voyez, dans les annonces, je vous ai parlé de l'amour et de l'unité qui peuvent être complètement en décalage avec la vérité. Un cœur bon, c'est un cœur qui ne se fera pas piéger par une religion humaine. C'est un cœur qui aime la vérité. Je suis la vérité, a dit le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens aiment l'amour et l'unité sans la vérité. Et ils sont dans le mensonge. Et que je sache, le père du mensonge, vous savez qui c'est. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre pour porter du fruit? D'ailleurs, est-ce que je peux poser la question à chacun? Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu portes du fruit dans ta vie? Ou est-ce que tu justifies le fait de ne pas porter de fruit? Vous avez lu l'Apocalypse? C'est un livre commun pour vous. C'est comment le livre de l'Apocalypse? Bon, Apocalypse, chapitre 1er. On va lire les trois premiers versets, s'il vous plaît. N'oubliez pas, c'est Dieu, le Père, qui a inspiré Jean, alors qu'il était en captivité, sur l'île de Patmos. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Il était en captivité, voyez. Il était dans une grotte, le pauvre, à 90 ans. Vous ne croyez pas que Dieu est bon? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors bien sûr que les moqueurs ricanent, à gorge déployée, à bientôt. Bientôt, ça fait 2000 ans, 1950 ans que ça a été écrit. Mais n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et Dieu n'est pas dans le temps comme nous. Les choses qui doivent arriver bientôt, quand le don spirituel parlait de ces brigands qui se moquaient, si vous avez regardé les moqueries de ces brigands ou des magistrats ou des soldats, franchement des magistrats en plus, ceux qui auraient dû avoir à cœur la justice, ils n'ont pas utilisé des verbes grossiers. Ils ont juste dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. Vous savez, Dieu, il sait ce qu'il a à faire. Je pense que ça frise l'insulte quand on commence à donner des ordres à Dieu. Et Seigneur, tu devrais faire ceci. Et tu devrais faire cela. Tu devrais peut-être même revenir maintenant parce que moi j'en ai marre. C'est une insulte. Alors heureusement que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais regardez comment ce livre qui exprime la grande tribulation qui va venir sur la terre, regardez comment le Seigneur nous le présente pour que nous comprenions quelque chose. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Regardez bien le verset 3, frères et sœurs. Si vous avez besoin de consolation, vous la recevrez maintenant. Et de repos. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le temps était proche il y a 1950 ans, vous en déduisez ce que vous voulez. Heureux celui qui lit. Il y a 66 livres dans la Bible, c'est le seul livre où il nous est dit que ceux qui le liront seront heureux. Heureux quand vous voyez ce qui est écrit. Pourquoi? Mais pourquoi est-il écrit cela? Pourquoi le Seigneur Jésus, dans son immense intelligence, a voulu que ce livre commence avec cet adverbe heureux? Heureux, mes frères et sœurs. Parce que les véritables chrétiens ne connaîtront pas la grande tribulation. Vous pouvez dire alléluia. Les véritables chrétiens sont heureux de lire ce livre parce que le Seigneur révèle une grande, 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 grande prophétie. Mais les chrétiens, les véritables chrétiens, ceux qui se tiennent prêts, ce qu'on appelle l'épouse, il y a l'Église Et à l'intérieur de l'Église, il y a l'épouse. L'épouse sont tous les chrétiens qui se préparent. Et après, l'Église est composée de plein de gens qui ne se préparent pas. Mais l'épouse, ce sont les chrétiens qui se préparent. Heureux ces chrétiens. Heureux ces chrétiens qui lisent l'Apocalypse. Parce qu'ils savent que ce qu'ils voient aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui va arriver une fois que l'Église sera enlevée. Peut-être que vous êtes paniqué quand vous ouvrez la télévision, quand vous allumez la télévision, peut-être que vous êtes paniqué et vous dire « mais qu'est-ce qui vous attend ?» Eh bien, ça va aller de mal en pis. Mais ce n'est rien. Peut-être que vous pensez que je veux vous inquiéter. Mes frères et sœurs, Dieu garde les fidèles. Il garde tous ses enfants. Si vous pouvez dire en toute honnêteté, le Seigneur Jésus, le Dieu du ciel et de la terre, il est mon Père. C'est mon Père. Il y a beaucoup de gens qui recitent le Notre Père, mais ce n'est pas vrai. Ils devraient dire mon Dieu, mais pas Père. Dieu est peut-être leur Dieu, mais il n'est pas leur Père. Et les chrétiens, les véritables chrétiens, n'ont pas peur. Alors certains vont me dire, oui, mais monsieur Gault, il est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 13, lisez-le avec moi. Je sais que ce livre est compliqué pour beaucoup de chrétiens, et je le comprends. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. C'est sûr que tant que vous n'aurez pas lu l'Apocalypse une trentaine de fois, minimum, et je suis sérieux, vous aurez du mal à le comprendre. Apocalypse, chapitre 13, et lorsque nous voyons ce dictateur mondial qui va surgir de l'Europe. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, je l'ai vérifié. Je n'invente rien, je n'ai pas envie que Dieu m'attaque de faux docteurs. Il sortira de l'ancien empire romain, c'est-à-dire de l'Europe actuelle, il sortira un dictateur. Et tout ce que vous voyez est préparé à l'avance. On a affaire à des gens qui préparent la venue de l'Antéchrist. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Je sais qu'il y a des chrétiens qui sont pires que les païens. Ils sont là, affolés, parce que si, parce que là. Mes frères et sœurs, les gens ont rejeté Jésus-Christ. On avait dit dans l'Ésaïe, on l'appellera admirable. Vous connaissez ce texte? On l'appellera admirable. Et personne, à part les vrais chrétiens, admire Jésus-Christ comme nous, on a eu la joie de le faire ce matin au travers de ces beaux cantiques. Au travers de la Sainte-Seine et au travers de la louange. Mais ils ont refusé d'admirer Jésus et ils admireront la bête. Regardez bien au verset 3 de ce chapitre. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la préparation de la mise en place d'un antéchrist qui va gouverner l'Europe. Les chrétiens préparés ne le verront pas. C'est pour ça qu'ils sont heureux ceux qui lisent. Mais des chrétiens le verront. Ah bon ? Mais c'est facile à comprendre. Alors regardez bien. Verset 3, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie, regardez bien, c'est un des versets les plus tristes de la Bible. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Alors là, le diable, il va être admiré. Croyez-moi qu'il va être rusé. Croyez-moi, il va être rusé. Ils adorèrent le dragon parce qu'il lui avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête. Bien sûr, il va faire des choses extraordinaires au niveau politique. Et qui peut combattre contre elle. Elle lui fut donnée une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, dont 3 ans et demi. Les 3 dernières années et demie après l'enlèvement de l'Église. Je peux vous assurer qu'il ne fera pas bon vivre sur la terre. Des milliers, des millions certainement de gens vont se convertir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au chapitre 7, il est parlé de gens qui comptent 144 000 juifs qui vont être des prédicateurs pendant la grande tribulation. Et juste après, il voit une foule que personne ne peut compter. Vous vous rendez compte? À un instant, il a pu compter 144 000 personnes. Et puis, il voit une grande foule. Qui sont ces gens? Ce sont toutes les vierges folles, les chrétiens légers, qui quand Dieu leur parle d'une manière peut-être un peu abrupte, j'en conviens, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais beaucoup de chrétiens, ils n'y croient pas, la colère de Dieu. Ils n'y croient pas. Ça fait 2000 ans que la grâce dure, que l'amour de Dieu dure, que Dieu se tait. La colère de Dieu, mais tu nous fais rire avec tes affaires. Dieu est lent à la colère, que son nom soit béni. Personne ne serait là si nous avions tous affaire à la colère de Dieu. Personne. Mais la colère, elle vient. L'Église ne peut pas traverser la colère divine. Si quelqu'un vous dit l'inverse, écoutez, je vous assure que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on peut être heureux. Il nous a sauvés de la colère. Nous sommes épargnés de la colère. Mais mes frères et sœurs, il y a plein de chrétiens. Peut-être, et j'espère, bien sûr que j'espère qu'il n'y a personne dans l'assemblée où Dieu m'a établi pasteur qui fait partie de ça. Mais enfin, vu parfois le comportement de certains, je vous avoue que je pense qu'il y a au milieu de nous des gens qui, hélas, feront partie de ce qui se passe au chapitre 13. Alors, au chapitre 13, qu'est-ce qu'on voit? Regardez bien. Aujourd'hui, les chrétiens sont gardés. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Bon, ça, il y a un temps que ça a commencé. Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Regardez bien. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent que l'Église traversera la grande tribulation. Parce qu'elle voit des chrétiens dans la grande tribulation. Mais les chrétiens que l'on voit dans la grande tribulation sont les vierges sages ou des pécheurs. J'espère qu'il y en aura beaucoup, qui se repentiront après l'enlèvement de l'Église, parce qu'ils vont certainement, tout d'un coup, s'attaquer à lire l'Apocalypse. Et ils vont se rendre compte de ce qui les attend. Là, je pense que le verset 3 du chapitre 1er pourra être rayé. Mais mes frères et sœurs, les chrétiens n'ont rien à craindre. Rien. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? La colère, elle vient. Dans l'Apocalypse, elle vient à partir. Vous pouvez, on y est dedans, vous pouvez aller, c'est facile. Au chapitre 6. Au chapitre 6, l'Église a été enlevée, donc la grâce est terminée. L'année de la grâce est terminée, comme dit Isaïe, et le jour de la colère, qui dure 7 ans en vérité, va commencer. Au chapitre 6, vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Il va y avoir une guerre qui va provoquer 2,5 milliards de personnes vont mourir. Vous avez une idée de la guerre que ça va être. Regardez bien au verset 16 du chapitre 6. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Vous voyez, la colère de l'agneau, c'est une image qu'on retrouve que dans la Bible. Un agneau, ça ne se met jamais en colère. Ce qui caractérise un agneau, c'est sa douceur. Mais la Bible, vous voyez, veut que nous comprenions bien. C'est que celui qui a été l'agneau de Dieu pendant 2000 ans va tout d'un coup devenir celui qui va être le juge de toute la terre. Ce que vous voyez, c'est le résultat de ce qu'on a semé. Pas nous, peut-être pas nous, mais la société. Je ne voudrais pas faire un parallèle avec ce qui est écrit dans Saül. Quand ils ont voulu Saül, vous rappelez ce texte. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient un roi. Ils voulaient un roi. Ils voulaient être comme les autres. Et ils ont eu le roi qu'ils méritaient. Et alors, franchement, je fais abstraction des chrétiens. Mais le monde récolte ce qu'il sème. Et le monde, vous le savez, s'il ne se repent pas, il est voué au jugement. Les chrétiens qui produisent du fruit, fuiront la colère. Et quand ils entendront une exhortation, celle dont ils ont besoin, c'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu avec sérieux. Quand moi je vois des chrétiens, oh moi j'y comprends rien, moi je lis pas. Vous croyez que c'est pas un peu léger ça? Franchement, le Seigneur nous a donné une lettre d'amour et nous on dit non, j'y comprends rien. Seigneur, je t'aime. Qu'est-ce que vous diriez d'un fiancé qui reçoit tous les mois une lettre de sa fiancée qu'il n'a pas vue depuis 1 an? Mais il chercherait la casquette du facteur de suite partout pour pouvoir ouvrir ce courrier. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle pense? Quels sont ses besoins? Et nous avons une lettre et nous n'avons pas envie de la lire? Il y a de quoi se poser des questions. La colère, elle vient. Je continue mon verset. La colère de l'agneau, car, verset 17, le grand jour. Ah oui, ça c'est un grand jour, je vous le dis. Le grand jour, c'est pas une année de colère, c'est un grand jour. C'est 7 ans, ça va durer. Surtout les 3 dernières années et demie. Le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Eh bien, la question, elle est sérieuse. Mais qui subsistera? Eh bien, ceux qui sont sous le sang du Seigneur. Ce matin, vous devez pouvoir répondre à cette première question. Est-ce que vous êtes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ? Si vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, vous risquez rien. La colère ne vous atteindra pas. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, les chrétiens superficiels, comme ces sadducéens, ces pharisiens et qui s'approchaient, mais Jean-Baptiste voyait comment ils s'approchaient. Il avait besoin de savoir comment ils s'approchaient. Il n'aurait pu rien leur dire. Jean-Baptiste, est-ce que Jean-Baptiste avait le choix d'obéir? Bien sûr, il avait le choix. On a toujours le choix d'obéir. Vous entendez un message, dans un quart d'heure c'est fini, vous allez en faire ce que vous voudrez. Dieu parle, comme Jonathan le rappelait tout à l'heure, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous parler par un songe, il peut vous parler par une épreuve, il peut vous parler par une bénédiction, il peut vous parler par un frère, par un cantique, il peut vous parler par le message, c'est évident. Il y a des moyens, on appelle ça les moyens de grâce. Mais qu'est-ce que je fais de ce que Dieu me dit? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? La cognée, elle est à la racine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2000 ans, Jean-Baptiste disait à ces gens qui s'approchaient de Dieu d'une manière superficielle, ils s'approchaient de Dieu pour avoir la bénédiction. On doit demander la bénédiction. Ne vous culpabilisez pas quand vous dites « Seigneur, Seigneur, bénis mes enfants, donne-leur du travail ». C'est normal. C'est normal, de toute façon, Dieu pourvoira. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est pas « Seigneur, je prends le baptême pour être béni ». Bien sûr que c'est évident. Mais je prends le baptême pour te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. C'est ça le baptême. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas faire ma volonté. C'est pour ça que Jésus dit, mais si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si vous ne renoncez pas à vous-même, vous ferez votre volonté. Ce commandement qui paraît restrictif, qui paraît pénible, est en vérité un des éléments de la joie du service. Beaucoup de chrétiens sont archi malheureux, parce qu'en vérité, ils sont dans cette lutte perpétuelle, ta volonté Seigneur, et en même temps, ils ne veulent pas, ils ont peur que ça soit difficile. Mais mon frère, ou ma sœur, ou jeune couple, ou personne âgée, tout ce que Dieu vous demande est intelligent. Et si Dieu vous demandait d'aller un jour missionnaire en Afrique, pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que Dieu peut vous demander d'aller missionnaire en Afrique? Je vais pointer du doigt. Est-ce que Dieu, oh moi je suis content, je vais arriver à la retraite, je vais faire ce que je veux. Seigneur, que ta volonté soit faite. Il risque d'y avoir un changement, comment on appelle ça, de logiciel. Est-ce qu'à la retraite, Dieu peut appeler quelqu'un à être missionnaire? Ah non, surtout pas. De toute façon, moi, les Africains, ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai tout entendu. Mais vous croyez que si Dieu demande à quelqu'un d'être missionnaire, c'est pour son malheur? Je me souviens qu'un jour, j'avais prêché sur Moïse. Et j'avais dit, est-ce que... Mais j'avais prêché, vraiment simplement, j'avais dit, est-ce que vous êtes prêt à partir avec 3 valises au bout du monde? Et moi, je dis oui. Moi, je suis prêt à partir avec 3 valises au bout du monde. On arrive à la maison. Ma femme, elle me regarde. Elle me dit, mais tu sais plus ce que tu racontes. C'est grave, Gérard. Il te faut faire attention. Tu prêches n'importe quoi. Ça ne va pas plaire à Dieu. Tu te rends compte, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu as dit que tu étais prêt à aller au bout du monde avec 3 valises. Tu le pensais? Oui. Et 2 ans après, on partait. Bon, on avait 5 valises. Mais on partait au bout du monde. Vous croyez que, même si ça a été des années d'épreuves, vous croyez qu'on a perdu? Vous croyez que Dieu se moque de vous? Vous croyez que quand Dieu nous exhorte des différentes exhortations, on devrait être comme ces soldats, comme ces religieux, comme ces gens dont on ne sait pas qui ils étaient. Mais que devons-nous faire ? Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Peut-être qu'il me faudrait peut-être, oui, lire le livre de l'Apocalypse, parce qu'il est un livre béni pour les gens qui gardent la parole. Je ne connaîtrai pas la colère de Dieu. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous, ou quelqu'un qui écoutera ce sermon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître la colère de Dieu ? Ou est-ce que vous êtes dépassé par ce qui s'est passé hier dans plusieurs villes de France ? Mes frères et sœurs, ce n'est rien. Vous ne croyez pas ce que je vous dis ? Ce n'est rien. Parce que tant qu'il y aura l'Église sur la terre, il y aura la grâce. Tant qu'il y aura l'Église sur la terre, il y aura le Saint-Esprit. Tant qu'il y aura l'Église sur la terre, Dieu est engagé. Ça nous dépasse un peu. Dieu, il est lié par sa parole. Est-ce que vous comprenez ? Nous, parce que nous, on a du mal avec les engagements. Les gens, ils prennent des engagements, ils ne les respectent pas. Mais Dieu, lui, il est engagé. Et quand il dit, au temps de la grâce, je te secourrai, mon frère, ma sœur, tout ce que vous voyez ne devrait pas vous affoler. Quand vous verrez ces choses, ne vous effrayez pas, car relevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alléluia ! Heureux celui qui lit. Oui, tu veux que je fuis la colère à venir. C'est quoi cette grosse hache là au pied de l'arbre ? Qu'est-ce qu'il nous raconte Jean-Baptiste ? Aujourd'hui, on ne mettrait pas l'hache, on mettrait la tronçonneuse. Pourquoi faire ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de hache, de cognée qui est mis à la racine des arbres ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, quand on ne réfléchit pas. Mais là, on réfléchit. Mais ça veut dire, regarde ta vie. Regarde ta vie. Ce matin, regarde ta vie. Tu ne vois pas à tes pieds. Il y a certaines choses peut-être qui devraient être arrachées. Nous, on s'occupe des branches. Le Seigneur, lui, s'occupe des racines. Nous, on coupe les branches. Nous, on est là dans le rapide. Et il faut vite, vite, de la détente, du plaisir. Seigneur, tu vois, je suis triste, je suis mélancolique, je suis déprimé. Il y a tout le temps ces trucs qui sont là. Alors on essaie de tailler les branches. Va voir ce bon film, tu verras, tu vas rire un bon coup. Mais les branches repoussent. Le problème, c'est pas tous ces artifices que l'on essaie de trouver pour avoir le fruit. On devrait dire, mais je vais regarder à mes pieds. C'est vrai que le jugement y vient. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde sur le calendrier de Dieu. Je ne sais pas comment c'est dans le ciel, ça doit être super, super, super merveilleux. Mais Dieu a un agenda, c'est sûr. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Ce dont il a donné une preuve certaine en ressuscitant Jésus-Christ entre les morts. C'est écrit. Alors Seigneur, il y a des choses qu'il me faut arracher. Eh bien, je vais le faire. Je vais le faire. Montre-moi par ta parole, même si moi je ne le fais pas ce matin, parce que je vois que le temps passe et que je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Mais vous pouvez, vous-même, vous rendre compte de ce qui a besoin d'être changé dans votre vie. Seigneur, éclaire-moi. Vous vous rappelez, en parlant de hache, le fils des prophètes qui était parti avec tous ses collègues construire un lieu plus grand parce que le lieu où il s'est retrouvé était trop petit. Et puis il y en a un, tout d'un coup, il dira au prophète, « Mon Seigneur, le fer s'est échappé, il est tombé dans l'eau, et il était emprunté. » Il avait loué une hache. Il avait loué une hache. Et en coupant un arbre, le fer s'est échappé. Je peux vous dire, pour avoir été de tout petit, avoir taillé des arbres, je peux vous dire que quand un fer se détache, vous le sentez. Bien avant. Vous le sentez quand un fer se démanche c'est sûr. Et on ne veille pas, on n'y fait pas attention. Vous voyez, quand les choses commencent à se détacher, on dit c'est pas grave, puis l'autre il fait pareil. Je ne veux pas donner d'exemple. Pour culpabiliser personne, parce que je n'ai pas envie de faire une erreur. Mais ce qui caractérise la bénédiction qu'il y a sur cet homme, c'est que de suite, De suite, il a réagi. Il a dit, ah, Monseigneur, il s'écria, il a dit. Il était emprunté. Et le prophète va lui dire, où est-il tombé?
Il pourrait dire, mais quelle importance?
Où est-il tombé? Il dit, ben là. Et le prophète, il prend un morceau de bois, vous le savez? Un morceau de bois qui représente, vous avez compris. Et il va le mettre au-dessus de l'eau. Et le fer va remonter. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il faut la croix. Il faut un miracle. Il faut que je revienne au calvaire. Vous n'aurez pas la victoire en regardant des films comiques. On va rire un bon coup, on va se marrer. Quand j'entends moi des chrétiens qui disent qu'il faut qu'on s'éclate, moi je crois que toutes les victoires, elles sont au calvaire. Et si chaque dimanche matin, quand nous prenions le pain et le vin, je crois que nous aurions des victoires en boucle si nous prenions le pain et le vin comme le Seigneur nous le demande. Qui vous a appris à fuir? Ben, vous savez, pour fuir, il n'y a pas besoin de faire comme Jonas. Jonas, pour fuir, il a pris un bateau. Vous savez, on peut rester dans son église et fuir. Et fuir la volonté de Dieu, je pense que je vous... Ce n'est pas un scoop ce que je vous dis. Seigneur, quelle est l'exhortation que tu veux m'adresser? Oui, heureux. Heureux celui qui lit la Bible, celui qui lit l'Apocalypse. Parce que la colère de Dieu ne l'atteindra pas s'il reste sous le sein du Seigneur. Que son nom soit béni. Malheureux les vierges folles. C'est pour ça que Jésus les taxe de folles. Elles ne sont pas plus folles que les autres. Mais elles sont folles parce qu'elles sont aveugles. De ne pas voir l'importance d'entendre la parole de Dieu. Moi je sais que j'ai lu les théologiens. Comment ils ont parlé de Jean-Baptiste? Comment avec mépris? Parce que cet homme, vous avez vu comment il est habillé? Si j'arrivais habillé comme ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui se poseraient des questions. Si je vous disais que depuis 3 mois je mange que des sauterelles, vous diriez, monsieur Beau, bon, il est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi Dieu avait permis que cet homme il soit bizarre? Pourquoi Dieu avait permis que cet homme soit bizarre? Original. Pour qu'on comprenne une chose, que ce n'était pas l'homme qui était important, c'était le message. Ce n'est pas l'homme qui est important dans une église, c'est le message de la parole. C'est le message là. Seigneur, si tu dois me reprendre avec sévérité, mais tant mieux. Si tu me reprends avec douceur, tout me va, Seigneur. Mais reprends-moi. Reprends-moi. Que je comprenne ce que c'est que de te suivre, Ruth, Thomas, Timothée. Dès le départ, restez au calvaire. Restez-y. Restez-y toute votre vie, parce que Jésus a dit que celui qui veut suivre Jésus-Christ, il doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix toute sa vie. C'est le secret du bonheur. C'est le secret de la joie réelle. Alors Seigneur, oui, j'accepte toutes les exhortations. Vous avez vu ces soldats? Des fois on me dit, il ne faut pas qu'il y ait de soldats dans l'église. Il ne faut pas qu'il y ait de soldats. Mais il faut des chrétiens partout. Moi, j'ai vu des gens qu'on a découragés parce qu'ils voulaient s'engager dans le génie civil, etc. Mes frères, vous avez vu les soldats? Ils se sont approchés de Jean-Baptiste. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient interpellés. Quand on est dans la présence de Dieu, on est interpellé. Tous, on devrait dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait 10 ans que je marche avec toi. Mais au fait, où j'en suis vraiment? Moi qui n'arrête pas de t'invoquer pour avoir la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction et la bénédiction. Mais est-ce que je me suis approché de toi pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me semble qu'au contact du calvaire, on devrait tous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si vos prières ne sont centrées que sur la bénédiction, j'ai bien peur, je m'avance peut-être un peu trop, mais j'ai bien peur que vous ne soyez pas au calvaire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être que Dieu te dit ce matin, mais relis les Écritures. Relis le sermon sur la montagne. Relis qu'il ne te faut pas regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais qu'il te faut appliquer à enlever la poutre qui est dans le tien. Ah, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Demandez Dieu, Seigneur. Toi qui as peut-être tendance à juger toujours les autres,
Peut-être que ça serait bien que tu dises, mais je vais arrêter de les juger et je vais me juger moi-même. Parce qu'il est dit dans la Bible que celui qui se juge, il ne sera pas jugé. Par contre, celui qui juge les autres, mes frères et sœurs, Jean-Baptiste avait la pensée de Dieu. Je voudrais que tous nous l'ayons et que nous puissions peut-être nous poser la question. Seigneur, ça va vous aider, je vous le dis, je le sais parce que je l'ai expérimenté. Mais vraiment, écoutez, je l'ai dit peut-être 20 fois en 20 ans, je le redirai. Mais peut-être que tous, avant de faire quelque chose, avant de regarder quelque chose, avant d'aller quelque part, non pas d'une manière religieuse, mais d'une manière intelligente, nous poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Vous savez, ça m'arrive souvent que des chrétiens viennent me voir, « Monsieur Gauche, j'ai ce problème, j'en peux plus, j'en ai marre, je sais plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et je leur dis, « Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, une fois pendant ces 6 mois, que ferait Jésus à ma place ?» 9 fois sur 10, les gens me disent, « C'est bon, Monsieur Gauche, j'ai compris. » 10 secondes. Ils avaient la solution. Qu'est-ce que tu ferais, Seigneur, à ma place ? Demain matin, quand vous vous lèverez, ou ce soir, quand vous serez peut-être devant un choix, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le montrera. Le Saint-Esprit vous dira, gère bien ton temps, afin que demain tu puisses commencer ta journée en te plaçant devant moi. Parce que celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Et je suis sûr que le Seigneur vous l'a déjà dit. Alors on va lui demander qu'il nous aide. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Parce que nous sommes dans le temps de la patience. Parce que nous sommes dans le temps de la bonté de Dieu. Nous sommes dans le temps de l'amour du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, 2 décembre 2018, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais la colère, elle va venir. Ce que vous voyez, je vous le répète, mes frères et sœurs, pour que vous ne soyez pas effrayés. Si vous êtes effrayés, mais regardez pas la télé, c'est pas la peine. Regardez pas les infos. Regardez l'apôtre Jean. Il vaut mieux certainement que certains journalistes. Ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent pour que le monde, après l'enlèvement de l'Église, puisse choisir un président européen qui sera ce dictateur qui va détruire les chrétiens. Mais les vrais chrétiens, ils seront pris avant. Peut-être que vous pouvez répondre au Seigneur là avec un mot ou 2 ou 10 dans votre cœur. On a chanté « Seigneur, entends mon cœur, entends mon cœur ». Je ne sais, il est bien ce cantique, je ne sais pas m'exprimer tout ça, mais Seigneur, entends mon cœur. Il est super ce cantique. Parce qu'il est biblique, mais parce qu'il exprime bien que Dieu regarde au cœur. Il leur adressait d'autres exhortations. On va prier aussi pour moi cet après-midi parce que je veux prêcher la croix au baptême. Mes frères et sœurs, la grâce va se terminer. Je vous encourage, frères et sœurs, à faire partie de l'épouse. Si vous êtes léger, demandez pardon pour la légèreté. Si vous êtes superficiel, demandez pardon pour la superficie. Si vous lisez votre Bible, si vous dites « j'ai pas le temps », demandez-lui pardon, demandez-lui de l'aide. Dites-lui la vérité, Seigneur, tu vois, j'aime pas lire, je suis feignant. Demandez-lui. Demandons au Seigneur, et on va le faire. Nous avons chanté, Seigneur, que tu regardes au cœur. Merci. Tu sais combien de fois nous avons été maladroits. Nous te remercions pour ta patience qui est notre salut. Nous te remercions pour la dispensation de la grâce. Nous te remercions pour l'infinie grandeur de ton amour, Seigneur.
Et quelle que soit l'exhortation que tu aurais à nous donner, que ce soit de la consolation ou que ce soit le reproche le plus sévère, Seigneur, mais qu'importe, mais que nous entendions ce que tu as à nous dire. Tout, Seigneur, aide-nous à nous poser toujours les bonnes questions pour savoir ce que toi tu ferais. Nous te prions non seulement pour les chrétiens de cette église, pour tous ces milliers de gens qui écoutent sur le site, ou pour tous ceux qui à l'étranger écoutent par le biais de radio, mais Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens de France, tous les chrétiens de ce pays. Nous te prions pour notre pays, Seigneur, comme tu avais demandé aux croyants en captivité de prier pour Babylone, pour le bonheur des croyants, nous te prions pour ce pays, Seigneur, pour que ta volonté soit faite. Et nous te remercions pour tous les anges qui nous protègent, pour tous ces anges qui protègent notre maison, nos voitures, qui nous protègent dans la rue, dans notre lit. Seigneur, que ton nom soit béni. Oui, nous le croyons, que ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur, nous aussi nous voulons nous accaparer le psaume 23 et dire que tu es notre berger, que nous ne manquerons de rien. Merci d'avoir dit aux hommes qu'ils étaient heureux s'ils y lisaient ce livre, parce que nous ne connaîtrons pas ta colère. Vraiment, c'est avec reconnaissance, Seigneur, que nous te remercions de nous avoir épargnés de la colère qui viennent. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.